Écoutez-moi, évidemment, le travail, ce n'était pas le cas avec Marceline et ni avec Régis Debray, qui n'étaient pas des illettrés.
Mais quand
on parle avec des illettrés, on ne peut pas écrire. Donc avec des illettrés, j'ai connu avec des illettrés comme Marceline, donc on disait, ben, on va faire ça. Donc on cherchait, puis brusquement, on arrivait à un endroit, on arrivait à un truc, et on dit, on va parler de ça, mais on ne savait pas ce qui allait se passer. C'est-à-dire que c'était vraiment le hasard objectif de l'échevaliste.
Si vous prenez Chronique d'un été, si vous prenez une des séquences dans laquelle je suis, sur la place de la Concorde, où je fais une évocation comme ça de la guerre, et puis avec un déplacement après dans les Halles qui n'existe plus aujourd'hui, l'idée première, c'était, il y avait les décors du comment s'appelait le plus long jour Paris Brûle-t-il. Alors on avait vu qu'il y avait ces décors de l'occupation allemande à Paris. Et effectivement, l'idée est venue, tiens, Marceline va peut-être parler de ces choses.
Seulement les gars tard,
voilà. Alors,
les chimistes de Clément avaient déjà tout démonté.
Ils avaient tout démonté quand on est arrivé, mais la séquence, elle a été, si vous voulez, c'est une mise en situation qui était comme ça dans l'idée d'un décor. Alors l'idée de ce décor, forcément, il était en liaison avec ma propre histoire ou mes propres réminiscences. Et puis on est arrivé, il n'y avait pas de décor, mais on n'a pas dit il n'y a pas de décor, alors on se barre. On a tourné la séquence dans l'état des choses où elles étaient. Puis tout d'un coup, Jean a eu cette idée, sans doute en écoutant ce que je disais de loin, parce que moi je portais le nagra sous un imperméable, parce qu'à l'époque on était reliés par des câbles, c'était compliqué, etc. Tout d'un coup, sans doute en écoutant de loin ou en réécoutant la bande, il a eu l'idée, tiens, on va aller dans les Halles. Effectivement, les Halles, il y a une espèce de lieu comme ça dans lequel on pénètre, noir, lourd, qui pouvait permettre de continuer cette séquence. C'est plutôt comme ça, mais c'est vrai aussi que rien n'était préparé, mais les gens qui sont quand même impliqués qui sont des protagonistes, comme moi je l'étais, forcément, comme un film se tourne en 3 mois, 4 mois, ou 6 mois, où on se connaissait bien, je savais aussi ce que j'avais envie de dire, mais je ne savais pas exactement comment j'allais le dire. Mais c'est vrai aussi que il y avait une mise en condition de moi-même sans qu'effectivement il y ait intervention d'Edgar Morin ou de choses comme ça.
Oui, mais là, il y a un plan formidable et qui nous a valu des tas d'emmerdements. C'est que le plan dont elle parle, bon, elle avait un micro-cravate et elle tenait le nagradon qui n'avait pas d'ingénieur du son.
C'était pas
l'ingénieur du son. Le son, c'était automatique. Et avec Michel, on a l'idée de mettre la caméra sur l'arrière de ma deux chevaux. Alors, moi, je pensais que Michel allait s'asseoir derrière. Il dit non. On va fermer l'obturateur, comme dans les trucs dont tu as parlé, et on va pousser la voiture. Il dit, mais alors, comment elle va s'arrêter? Il dit, bah, elle s'arrêtera d'elle-même. Alors, il n'y avait pas de... Alors, le type qui suivait, le directeur de production, a fait un rapport à la production en disant, bah, Rouche est fou, ça y est. Il a filmé son ingénieur de son à la caméra, sans preneur de son, sans preneur d'image, et sans chauffeur dans la voiture de travelling. Autrement dit, il n'y avait personne. Et le miracle a été que c'est un plan inoubliable. Voilà, et ça s'est fait, il n'y avait personne. Une image qui était une image volée au hasard. Et ça, bon, ben, on prenait ces risques-là, et on le voyait après, on était ravis, on revoyait ça, alors... Il a fallu convaincre la production que c'était très bien comme ça. Parce qu'il n'aimait même pas ça. Il avait peur de nos galipettes, tout le temps. Il n'avait pas tort d'ailleurs.
Est-ce que le fait de cette liberté comme ça.
Une seconde, je vais regarder les reprenregistrer tout ça.
Cette liberté qui apparaît comme ça dans le documentaire à ce moment-là, ça coïncide quand même.
Sur un pied, c'est une caméra très lourde, il faisait très froid. Et
il a fait construire un igloo plus grand parce qu'il
pouvait
pas.
Oui, il a enlevé le toit.
Faut pas le rêver,
il a enlevé le toit parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Oui. Mais il racontait une histoire.
Ah oui, le rôle des gens qui était celle de ces gens.
Alors, ce que tu dis est très passionnant parce que, en fait, effectivement, ça se passait de cette manière-là. Mais en même temps, Jean-Luc Godard. Bon, on faisait partie de du même groupe. Hein. On était les mauvais élèves de la cinémathèque rue d'Ulm, ceux qui s'asseyaient au premier rang. Bon, et on ne se connaissait pas. Et Jean-Luc Godard, pour tourner à bout de souffle, enferme Coutard dans une boîte de livraison de DPTT avec une petite fenêtre. Et il demande à Belmondo et à Machine, comment ça s'appelle
Schieberg,
de raconter une histoire. Il n'y avait pas de son. Le son était, c'est du son témoin qui allait être post-synchronisé. Personne n'a su qu'on tournait sur les Champs-Élysées. À ce moment-là, il y a quand même il y a un figurant assez important qui passe, je crois qu'il n'était pas prévu, qui était Charles de Gaulle. Il passe en bas, hop, on tourne le truc et on voit passer Charles de Gaulle qui rentre dans l'action. Donc c'était vraiment l'improviste de ce qui se passait et le cinéma était fait comme ça. Mais très vite, la nouvelle vague est devenue, est rentrée un peu dans la raison. Et comme tous ces gens étaient au cahier du cinéma qui n'étaient pas illettrés, alors ils écrivaient des dialogues, ils écrivaient des textes. Nous, on était vraiment, on était les sauvages.
Ah oui, ça.
Des vrais sauvages.
Ouais.
Et Edgar Morin, qui était un grand écrivain, un grand penseur, on l'a ensauvagé. Il a eu beaucoup de mal à s'en remettre, hein, souviens-toi.
On va essayer de lui demander de nous dire s'il est d'accord.
Je me rappelle qu'il y avait Rossellini aussi qui avait dit à Jean, mais Jean, tu es un paresseux.
Surtout venant de Rossellini.
Parce qu'il écrivait pas du scénario.
Oui.
Et pourquoi il avait dit
ça? Il avait dit ça parce que Rossellini était un peu jaloux de ces aventures-là. Rossellini, si vous voulez, le truc que nous, on avait été plus loin avec Michel, c'est qu'on était à la fois réalisateur et caméraman. Et on découvrait les joies de ne pas avoir à dire à un type, un peu comme ça, mettre son œil dans le viseur, dire oui, là, tu m'envoies une mousseline pour. On arrivait, on se mettait à la caméra, on regardait si ça collait à peu près, on regardait si le diaphragme était à peu près bon. Michel m'a appris une chose qu'on ne faisait pas, c'est que quand on travaille avec une caméra, le meilleur diaphragme, c'est un spot au-dessus de la pleine ouverture. Alors, les opérateurs, normalement, ferment toujours le maximum pour avoir la profondeur de champ. S'ils sont foutus dedans dans la mise au point, donc c'est à peu près net. Là, c'est impitoyable. Alors, on prenait des risques comme des gens de trapèze volant s'enfiler. Alors, ça vous donne du courage, des trucs comme ça. Ça vous permettait d'aller plus loin.
Mais c'est paresseux.
Quoi ? Bon, oui, c'est paresseux. Parce qu'on aurait pu, faire attention. Mais on comptait sur l'improviste. Par exemple, dans le film, quand on a commencé à tourner, avec Marceline et Nadine Tambras, elle était hier à Blois, et Nadine, où elle questionnait le début du film qu'on avait dans Chronique d'un été, était « Êtes-vous heureux ?» Et des jeunes dames, au micro à des gens, elles se faisaient insulter.
De
ravissantes jeunes femmes. Ils sont restés. Et ces ravissantes jeunes femmes arrêtaient des gens dans la rue avec un micro. Alors, elle s'adresse par exemple à un monsieur un peu âgé, et il recule, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un micro. Alors, c'est ce que répond Marceline. Alors, le vieux monsieur, pour pas avoir l'air trop bête, répond, ah oui, un micro, vous savez pas ce que c'était, mais il commence à parler. Elles interrogent un flic sur la place de la Bastille, et en disant, est-ce que vous êtes heureux? Alors, ça, c'est de la provocation, hein, pure et simple. Elles avaient un petit sourire qu'on voit là-dedans. Et le flic. Et elle répond, mais si j'étais pas en uniforme, comment je vous répondrais?
Je peux pas répondre, je suis en tenue.
Oui.
C'est exactement ça.
C'est ça, oui. Exactement. Et il n'avait pas compris, vous faites une enquête sociologique, alors il dit, une enquête sur le logis. Alors, c'était à pisser de rire continuellement, c'était les trucs, c'était vraiment extraordinaire.
Aussi que la caméra n'était pas descendue dans la rue comme elle est descendue aujourd'hui. Pratiquement, il n'y avait pas la télévision.
Qui regardait la télévision? Tu regardais la télévision, toi? La télévision était dans ses balbutiements, et elle était quand même extrêmement... ses méthodes n'étaient pas encore entrées dans les circuits de télévision. Ces méthodes de travail, c'était quelque chose de véritablement nouveau à l'époque. La télévision, tout se passait en studio, tout était cadré. C'était rare qu'il y ait comme ça du direct, du ce qu'on appelle entre guillemets du spontané. Hein. Donc il faut comprendre que la majorité des gens, pour eux, c'était surprenant. Tout un groupe de gens dans la rue avec des caméras, c'était quelque chose de vraiment nouveau. Ce qui ne l'est plus aujourd'hui parce que les gens savent tous que c'est une caméra, le son direct.
Tu te rappelles que... La question, êtes-vous heureux? Moi, j'étais dans la voiture Et vous, vous baladiez avec le micro, oui. Et avec le micro qui était évident.
Oui.
Et puis c'est moi, je me rappelle, je ne sais pas pourquoi, je me rappelle que je trouvais que vous étiez tous affolés à chaque fois qu'on était repérés. Parce que vous aviez souvent cette expression, vous disiez, attention, attention, on est repérés. Et ça, ça m'est resté de cette époque-là. Attention, on est repérés.
Je ne me rappelle pas, le même Jean, il a été agressé par un flic en civil, place Saint-Germain-des-Prés. Il dit, vous tournez celle-là ? C'était moi. Tournez celle-là, mais elle fait de la propagande pour l'Algérie, pour
l'indépendance.
C'est tout ça, c'était c'était dans ce qui va là.
C'est un peu lourd,
des pétillants.
T'as
oublié ça ?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, on avait, puisqu'il n'y avait pas de scénario, le scénario qu'on avait Edgar Morin était une hypothèse folle.
Oui.
C'est que pendant l'été de 60, la guerre d'Algérie allait se terminer. Oui. Ça a failli se faire. Et alors, à ce moment-là, on faisait un film historique. On filmait un événement qui pour nous était considérable, pour la jeunesse française, pour la France, pour l'Algérie, etc. Puis manque de bol, le scénario change, la guerre d'Algérie ne finit pas et ça commence au Congo. Alors il n'y a plus de raison de s'arrêter. Alors c'est pour ça que le film qui s'appelait au début « Comment vis-tu » est devenu la chronique d'un été particulier. Oui. C'est la chronique d'un été un peu raté, sur bon. Beaucoup de plans. Mais le film était pas mal. Voilà, on a sauvé l'honneur de cette été 60.
C'est-à-dire que nous avons tous sauvé le film.